Alors cette dernière piste audio nous permettra d'aborder les fonctions, les modules, les I/O, c'est-à-dire les entrées-sorties et quelques goodies. Donc nous commençons diapo 37 avec la définition et l'appel des fonctions. Donc avec Python, c'est pas trop difficile. Pour définir une fonction, on utilise le mot-clé def, suivi du nom de la fonction, et entre parenthèses, on donne éventuellement les paramètres d'appel de la fonction, suivi d'un deux points qui va annoncer le corps de la fonction. Donc le corps de la fonction, comme d'habitude avec Python, ça va être un bloc indenté dans lequel on peut écrire plein d'expressions Python, on peut définir des objets. Les objets qu'on définit dans le corps d'une fonction sont locaux à la fonction, c'est-à-dire que quand on retourne, quand la fonction s'arrête, tous les objets qui ont été définis localement sont détruits. Si on veut qu'une fonction retourne des objets, on doit utiliser le mot-clé return. Donc le petit encart en bas de la diapo 37 récapitule un petit peu tout ça. On définit un objet Q qui vaut donc 0, qui est défini en dehors de la fonction. Puis on définit la fonction divide qui prend deux paramètres A et B. Et à l'intérieur du corps de la fonction, on définit un autre objet Q, mais qui cette fois-ci est local à la fonction, qui n'a rien à voir avec le premier objet Q qu'on avait défini, et qui est simplement la division entière de A par B. Puis on définit un deuxième objet R, qui vaut A moins Q fois B. Et on renvoie Q et R. Alors vous voyez que si on écrit ensuite x, y égale divide parenthèse 5,2, ben quand on regarde l'écho interactif de Q, de x et de y, sans surprise, Q c'est bien l'objet global qu'on avait défini tout en haut de l'encart qui vaut toujours 0, il n'a pas changé. Et puis la division de 5 par 2, division entière, donne 2 avec un reste 1, et c'est bien ce qu'on voit pour les valeurs de x et de y. Alors je passe à la diapo 38 pour aborder le mécanisme de passage des arguments. En Python, les arguments sont passés par référence et non pas par une copie de leur valeur. Alors ça veut dire qu'à l'appel de la fonction, les arguments sont vraiment transmis sous la forme d'une référence et que cette référence va permettre à la fonction de manipuler son argument. Donc si c'est un objet mutable qui est transmis en argument, il pourra être modifié dans la fonction. Si c'est un objet non mutable, bien entendu, il ne pourra pas être modifié. Donc si on regarde l'encart en bas à gauche, on voit qu'on définit une fonction f0 qui prend deux arguments et qui affecte à A la valeur 2 et à B la valeur 3, suivi d'un petit print pour montrer quelles sont les valeurs de A et de B à l'intérieur de la fonction. Et puis elle fait son return en renvoyant aucune valeur. Elle en a parfaitement le droit. Donc après, on définit l'objet A avec la valeur 0, l'objet B avec la valeur 1. On regarde l'écho interactif de A et de B. On voit bien le 0 et 1. Et on fait l'appel de la fonction A en lui passant les deux objets A et B. Donc on voit l'affichage que fait la fonction et on voit bien qu'à l'intérieur de la fonction, l'objet A, c'est le nom de l'entier 2, et l'objet B, c'est le nom de l'entier 3. Et puis si on regarde avec notre interpréteur Python la valeur des objets A et B, qu'on a défini juste avant d'appeler la fonction, on voit bien qu'ils n'ont pas changé, et ils valent toujours respectivement 0 et 1. Et dans le deuxième encart en bas à droite, on définit une autre fonction f1 qui prend un argument. Et dans le corps de la fonction, en fait, on parcourt l'objet A avec un enumerate qui nous donne pour I le numéro de tour de boucle et pour E successivement tous les éléments qui sont dans l'objet A. Et vous voyez que dans le corps de la boucle, on donne au ième élément de l'objet A la valeur 2 fois E. Ça veut dire que là, on va modifier les valeurs successivement dans la boucle du ième élément de l'objet A. et on ne retourne rien. Alors à l'utilisation, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on définit dans le shell Python une liste, A égale 1, 2, 3, avec les crochets ouverts, crochets fermés, c'est bien une liste. On regarde son ID, c'est-à-dire son identité, qui est son adresse en mémoire, juste pour le fun. Et puis on appelle la fonction F en lui passant l'objet A. Alors vous voyez tout de suite, comme A est une liste, ben, la fonction va, dans la boucle enumerate, de A va modifier tous les éléments de la liste. Au retour de la fonction, si on regarde ID de A, bien entendu, la liste A n'a pas changé d'adresse en mémoire. Donc c'est toujours le même objet, c'est un objet mutable. Et si on regarde avec print A ce qui s'est passé, ben on voit que chacun des éléments de la liste a été multiplié par 2. Et donc la fonction F1 a bien modifié l'objet liste qu'on lui avait passé en argument. Alors je passe à la diapo 39 pour aborder la notion d'argument positionnel. Donc c'est assez simple, hein, l'appel de la fonction, les arguments passés sont des objets qui sont placés à une certaine position. Dans le cadre de la diapo 39, on voit la définition d'une fonction F2 qui prend trois paramètres. A est le premier, B est le deuxième et C est le troisième. Et puis à l'intérieur, on fait juste l'affichage de la valeur de ces trois paramètres avec un affichage formaté. Et puis la fonction retourne rien. Alors si on essaye d'appeler la fonction F2 avec un argument, ben, ça ne marche pas parce qu'il lui en faut trois. Et si on essaye d'appeler F2 avec le 0 et le 1, ben, ça ne marche toujours pas. Et puis finalement, si on appelle la fonction avec les trois arguments, 0, 1, 2, ben là ça marche. Et la correspondance entre les arguments qu'on a passés à l'appel de la fonction et puis les noms A, B, C, ben elle est immédiate, c'est par la position. 0, c'est le premier argument, donc A va prendre la valeur 0 à l'intérieur de la fonction. 1, c'est le deuxième argument, donc B va prendre la valeur de ce deuxième argument. Et C va prendre la valeur 2 puisque C c'est le troisième argument, c'est pour ça qu'on parle d'argument positionnel. Avec la diapo 40, on va voir une autre façon de passer des arguments à une fonction, c'est ce qu'on appelle les arguments nommés. Alors je vous invite à regarder tout de suite l'exemple qui est en bas de la diapo 40. On reprend la fonction F2 tout à l'heure, où on avait défini trois arguments ABC. Mais là, vous voyez qu'on les donne sous la forme d'une affectation en nommant l'argument C égale 3, A égale 1, B égale 2. Donc il y a plusieurs choses à observer. Vous voyez qu'on ne les a pas donnés dans l'ordre ABC, qui était l'ordre dans lequel ils sont définis dans la diapo précédente. Et ici, on a donné les trois arguments sous la forme d'affectation des noms des arguments, pour les trois. Alors, la ligne suivante, vous voyez qu'on définit une fonction F3 qui prend trois arguments. Mais à la différence de F2, on donne des valeurs par défaut au deuxième et au troisième argument, donc B égale 2, C égale 2. Puis à l'intérieur du corps de la fonction, on fait l'affichage des arguments passés. Alors, quelle est la différence entre la fonction F3 et la fonction F2? Bien, c'est que quand on appelle F3, on est obligé de lui donner au moins un argument, ce qui va représenter A, mais on peut omettre de lui donner la valeur de l'argument B, qui par défaut sera 2, et la valeur de l'argument C, qui par défaut sera 2 aussi. Vous voyez, quand on fait F3 de 0, le print qui est à l'intérieur de la fonction F3 nous dit A c'est 0, B, c'est 2 et C, c'est 2. B et C, on n'a pas donné les valeurs, mais dans la définition de la fonction, il y avait des valeurs par défaut. Voilà, puis dans l'encart en bas à droite de la diapo 40, vous voyez qu'on peut s'amuser à faire plein de choses assez rigolotes. Alors les diapos 41 et 42 abordent des notions un petit peu avancées là pour le passage des arguments. Ceux qui sont intéressés pourront les regarder. La diapo 41 aborde donc l'utilisation du caractère étoile qui est utilisé quand on ne connaît pas à l'avance le nombre d'arguments qui seront passés à une fonction. Donc je vous laisse regarder les exemples pour ceux que ça intéresse. Et sur la diapo 42, on peut faire faire la même chose quand on veut passer un dictionnaire et qu'on ne connaît bien entendu pas à l'avance le nombre de clés valeurs qu'il y a dans le dictionnaire. Alors c'est très très utilisé dans les modules Python comme Matplotlib, NumPy, SciPy, et ceux qui sont intéressés pourront détailler les exemples de ces diapos 41 et 42. Alors avec la diapo 43, on va aborder maintenant les modules Python. Ça, c'est vraiment ce qui fait toute la richesse du Python et c'est quelque chose qu'il faut savoir utiliser. Alors fondamentalement, un module Python, c'est pas compliqué, c'est un fichier Python, donc un fichier qui contient du code source Python, qui a l'extension .py, et puis qui contient à l'intérieur des expressions, du code Python, des for, des boucles, des définitions de fonctions, d'objets, de tout ce qu'on veut. Alors comment on se sert d'un module Python ? Bien, on utilise le mot-clé import. Et en fait, quand on écrit dans un programme Python, import est le nom d'un module, il faut bien comprendre que Python, à ce moment-là, il va chercher le fichier .py qui correspond au nom du module et il exécute tout ce qu'il y a dedans. Donc en fait, l'import Python, c'est quand même vraiment l'exécution du module. À ce moment-là, tout ce qui est défini dans le module sera préfixé par ce qu'on appelle un espace de nom, qui est tout simplement le nom du module. Et franchement, j'insiste bien là-dessus, hein, toutes les définitions, tout ce qui est écrit dans le module est exécuté par l'interpréteur Python. Alors vous voyez dans l'encart en bas à gauche de la diapo, on voit le contenu d'un fichier Python qui s'appelle test.py, où on définit l'objet A qui vaut 12 et on définit la fonction bonjour qui fait print hello world et qui retourne rien. Et puis comment on peut se servir, donc comme c'est un fichier Python, on peut s'en servir comme d'un module. Donc à droite dans l'encart qui est vert, dans le shell Python, on peut taper import test. Alors là on suppose que le fichier test.py est au bon endroit de façon à ce qu'il n'y ait pas de souci de chemin d'accès. Donc on dit simplement import et on donne le nom du fichier sans son suffixe test. C'est comme ça qu'on se sert d'un module. Alors si on veut parler de l'objet A qui était défini dans le fichier test.py importé en tant que module test, il faut parler de test.a. C'est ce qu'on voit par exemple quand on fait x égale test.a print x. On obtient 12 parce que l'objet A était bien défini à la valeur 12 dans le fichier test.py. Et si on veut se servir de la fonction bonjour définie dans le module test, là on est obligé d'écrire test.bonjour. Donc tout ce qui a été défini dans le module test doit être préfixé par le nom du module si on veut s'en servir. Alors dans la diapo 44, on va voir que maintenant il y a plusieurs syntaxes qui vont permettre d'importer et de se servir de tout ou partie d'un module. Vous voyez la première syntaxe, import module, ça permet de, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, ça permet d'importer le module entier. Et éventuellement on a droit au mot-clé as et on peut lui donner un alias. Alors ça c'est beaucoup utilisé avec les modules qui ont un nom un peu long et en général l'alias c'est un petit nom. Donc dans l'encart en bas à gauche vous avez des illustrations de cette syntaxe, par exemple avec le module math. Si je fais import math, bon dans math sont définies les fonctions sinus, cosinus, etc. et puis pi. Et si je veux m'en servir, je suis obligé d'écrire math.sin parenthèse math.pi sur 4 par exemple pour calculer le sinus de pi sur 4, ce qui vous avouerez n'est pas quand même très très pratique. Alors une autre façon de rendre les choses un petit peu plus légères, c'est d'écrire import math as m, c'est quand même plus court que math, et à ce moment là je peux écrire m.sin parenthèse de m.pi sur 4. Une autre façon d'importer ce qu'il y a dans un module, vous voyez, c'est le deuxième encart mauve au milieu de la diapo, c'est from module import étoile. C'est pas très très recommandé quand on a des gros gros modules, puisque souvenez-vous qu'import va quand même exécuter tout ce qu'il y a dans le module. Et ça donne les exemples de l'encart vert qui est au milieu en bas au milieu de la diapo, from mat import étoile. Et dans ce cas-là, tout ce qui est défini dans le module mat est importé directement dans l'espace de nom de l'interpréteur. Et donc on peut accéder directement à pi. Et vous voyez, et on peut directement taper sinus parenthèse de pi sur 4 ou encore écrire log parenthèse 1. Alors le problème, bien entendu, de ça, c'est que par exemple, si on s'était défini une fonction sinus à soi qui fait des choses un petit peu plus raffinées que la fonction sinus du module mat, au moment où on écrit from mat import étoile, eh bien la définition de sinus dans le module mat vient écraser la définition perso qu'on aurait pu se faire de la fonction sinus. C'est un peu l'inconvénient de cette syntaxe. Et puis la dernière forme d'utilisation du module qu'on vous suggère, c'est le from module import item 1, item 2, etc. Donc vous voyez dans l'encart en bas à droite, on peut écrire par exemple from mat import pi, sin, log. Alors ça c'est quand même une syntaxe qui est assez sympathique parce que on maîtrise tout à fait quels sont les noms des objets ou des fonctions qu'on importe dans notre espace de nom. Ça permet d'avoir des écritures courtes. Et on a la possibilité aussi de donner des alias aux items qu'on importe. Donc un petit jeu rigolo par exemple qui consiste à écrire from mat import sin as cos. Bon, ça donne des résultats un peu surprenants. Alors sur la diapo 45, on aborde les modules de la bibliothèque standard. Donc c'est vraiment ce qui fait la richesse de Python, il y en a plus de 200. Et vous pouvez cliquer sur le lien en chocolat, là, le doc.python.org/library-index.html, et vous verrez apparaître tous les modules de la bibliothèque standard. Il y en a énormément. Et dans les diapos qui suivent, on va juste en mentionner quelques-uns qui sont très très utilisés. Je passe à la diapo 46. Alors là, on trouve le célèbre module math, qui est vraiment le module mathématique où sont définies toutes les constantes et les fonctions mathématiques usuelles. Donc vous voyez que si on fait un import mat et qu'on fait dir mat pour voir ce qu'il y a dans mat, hein, je vous rappelle que dir c'est la fonction intrinsèque à laquelle on peut passer un objet, un module est un objet, hein, dans Python tout est objet, et dir montre tout ce qu'il y a dans l'objet, donc là on voit tout ce qu'il y a dans mat. Alors on voit des choses qui commencent et finissent par double underscore, qui sont propres à la gestion du module, et puis après on voit tous les noms, arc cosinus hyperbolique, etc. Puis vous voyez qu'il y en a plein. Et donc c'est toutes les fonctions mathématiques usuelles, ainsi que des constantes comme pi ou comme e. Sur la diapo 47, on voit qu'il existe aussi un module cmat. Et là, ben, c'est les mêmes fonctions que précédemment, mais qui acceptent des arguments complexes. Donc on retrouve arc cosinus hyperbolique, sinus, tangente, etc. Mais là on peut donner des valeurs complexes. On a l'exponentielle complexe, le log complexe, etc. Et avec la diapo 48, on va illustrer un module qui ne fait aucun calcul, hein, puisqu'il y a énormément de variétés de modules possibles. C'est le module OS, comme Operating System. En fait, il propose des fonctions qui vous permettent d'interagir avec le système d'exploitation. Interaction au sens en particulier de l'arborescence des répertoires et des fichiers. Et vous voyez que au hasard, hein, dans le module OS, on a des fonctions comme chdir qui permet de faire le change directory, donc changer de répertoire de travail. Le getcwd qui est le get current directory qui permet de renvoyer le répertoire de travail courant, le listdir qui permet de renvoyer sous forme d'une liste le contenu d'un répertoire, le mkdir qui permet de faire un make directory, rmdir, remove directory, et donc vous avez dans l'encart en bas à gauche de la diapo 48 des exemples d'utilisation. Alors l'encart de gauche est fait sur une machine sous Linux. L'encart de droite est fait sur une machine sous Windows. Alors ce module est très très utilisé pour tout ce qui concerne la gestion des dossiers et des fichiers, donc la gestion d'arborescence. Alors je passe à la diapo 49 pour aborder maintenant les entrées-sorties clavier-écran ainsi que le formatage des chaînes de caractères. Pour les entrées clavier, Python propose la fonction input. Donc je vous laisse regarder l'exemple de l'encart qui est en bas à gauche. Donc si on écrit rep égale input, parenthèse et la chaîne de caractères entrée un nombre, et qu'on exécute ça, mais on voit la chaîne de caractères, donc qui est le message, entrée un nombre. On peut taper la valeur, par exemple 47, et au moment où on appuie sur la touche entrée, input a fini de s'exécuter. Et si on regarde l'écho interactif de rep, on voit qu'on a récupéré sous la forme d'une chaîne de caractères la saisie clavier de l'utilisateur. Alors bien entendu, comme c'est une chaîne de caractères, si on tente le test rep égale égale 47, on obtient la réponse false. Si on regarde le type de rep, on voit bien que c'est un str. Éventuellement, on peut convertir rep au format float ou int. Par exemple, float en écrivant x égale float de rep et on voit que x vaut 47.0. Donc il ne faut pas oublier quand on fait une saisie clavier avec input et qu'on désire que la saisie clavier soit interprétée comme un nombre, donc il ne faut pas oublier de convertir la réponse de l'utilisateur avec soit la fonction int, soit la fonction float. Je passe à la diapo 50 maintenant pour aborder le formatage des chaînes de caractères. Donc c'est la méthode format de la classe str qui va permettre de faire du formatage de chaînes de caractères. Le principe est illustré par le petit encart bleu là qui est en haut de la diapo. On voit entre guillemets chaîne de formatage contenant des accolades ouvertes, accolades fermées, fin des guillemets, point format, parenthèse et une liste d'arguments. Et le principe c'est que à chaque fois qu'il y a une occurrence d'accolade ouverte, accolade fermée dans la chaîne de caractères qui est à gauche de point format, bien cette occurrence sera remplacée par la valeur de l'objet correspondant dans les arguments donnés à la méthode format. Alors dans l'encart vert qui suit, vous voyez par exemple print parenthèse nom accolade 2.s âge etc. Donc vous voyez qu'il y a trois séries de accolades ouvertes, accolades fermées. Et puis la chaîne de caractères se termine par point .format. Et là on donne trois arguments. La chaîne de caractères Smith, le nombre 42 et le nombre 1.73. Et vous voyez que à chaque occurrence de accolade ouverte, accolade fermée, la valeur de l'argument de format correspondant est substituée aux accolades. Alors en même temps, il y a du formatage. Vous voyez que pour âge, par exemple, à l'intérieur des accolades, on demande avec le 2.4D le formatage d'un entier sur 4 chiffres, un entier en base 10 sur 4 chiffres. Pour taille, on voit accolade ouverte 2.5.2F, donc le F, ça veut dire qu'on demande un format flottant, le point 2, c'est 2 chiffres après la virgule, et le 5, c'est l'ensemble sur 5 chiffres. Voilà, donc vous voyez dans le tableau des exemples de spécification de formatage, les principaux formatages utilisés. .nf, c'est donc n décimal au format flottant. .ne, c'est n décimal au format scientifique. Le n.de, c'est en tout n caractères, avec des décimales au format scientifique. S, ça veut dire qu'on demande simplement à formater une chaîne de caractères. Et D, ça désigne un format entier en base 10. Alors on peut dire 2D, 3D, 4D pour 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres en base 10. Et j'ai choisi le format le plus approprié. Dans beaucoup d'exercices qu'on verra, vous verrez des illustrations de ce formatage avec la méthode format appliquée à une chaîne de caractères. A titre d'information, Python propose également du formatage façon printf du C. Bon, ça c'est hérité de la version Python 2. Ça utilise l'opérateur %. C'est anecdotique et c'est de moins en moins utilisé au profit de la méthode format. Voilà, et les dernières diapos 51, 52, 53 aborde la notion de définition des séquences en compréhension. Je vous laisse regarder ces diapos, mais principalement, ces notions-là seront abordées dans un cahier d'exercice ePython.